Psaume 36, versets 6 à 11. S'abriter sous ses ailes. S'abriter sous ses ailes.
Ça va être le
psaume 36, versets 6 à 11. Ça va être le titre du message. S'abriter sous ses ailes. Comme notre titre qui est sous ses ailes.
Sous tes ailes.
Sous tes ailes. Psaume 36, versets 6 à 11. Bien, c'est ça. Ça commence avec. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! C'est drôle, on a chanté plusieurs fois la bonté. Deux fois la bonté. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu, à l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. À l'ombre de tes ailes. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Éternel, ta bonté, étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Alléluia. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Quand David disait ce passage, il faisait référence au sanctuaire, au lieu très saint, où les deux ailes du chérubin de gloire couvraient le propitiatoire. Puis, c'était l'image qu'on a pour nous, croyants, d'aller se réfugier sous les ailes des chérubins de gloire, sous les ailes de Dieu. Puis, cette image-là est pour nous aujourd'hui. On peut se rendre sous les ailes du chérubin de gloire, sous la gloire de Dieu. On peut s'abriter, trouver un refuge dans ce monde où il n'y a rien de la bonté de Dieu. On se réfugie en lui parce qu'il est un refuge. Ses ailes de gloire nous couvrent. Puis comment on a accès à ce lieu très saint? Comment on entre dans ce lieu très saint? Comment on demeure dans ce lieu très saint? C'est le lieu très saint, c'est le sanctuaire. Le lieu, le saint des saints. C'est ça, c'est le saint des saints, là où c'est dans le temple de Moïse. Là. Il y avait les chérubins de gloire qui couvraient le propitiatoire. Ça dit, se rassasier, s'abreuver au torrent de tes délices. Dans ce lieu-là, il y a abondance. Dans ce lieu-là, il y a un torrent de délices. Dans ce lieu-là, il y a la source, une source de vie. Dans ce lieu-là, il y a une source de lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Il y a une source de bonté. Les bontés de Dieu se manifestent. Il y a une source de justice. Et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Tout ça, c'est dans ce lieu-là. C'est dans la présence de Dieu. C'est dans le lieu très saint, à l'ombre des chérubins de gloire. Puis nous, en Jésus, ce lieu est ouvert. Ce lieu, l'accès est ouvert. Hébreux 10, 19 à 22. L'accès, le lieu est ouvert pour tous ceux qui veulent, pour tous ceux qui désirent. Quand Jésus a dit « Cherchez premièrement le royaume », c'est parce que lui allait ouvrir la porte de ce royaume-là. Hébreux 10, 19 à 22. C'est un verset que j'aime beaucoup, que je rappelle souvent, mais c'est le verset de base pour l'entrée dans le sanctuaire, dans le Saint des Saints, dans la place où Dieu lui-même habite. 19 à 22. Hébreux 10, 19 à 22. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Parce que, dans l'entrée du lieu très saint, il y avait un voile qui fermait l'entrée. Dans l'Ancien Testament, ce voile était là, puis ça ne permettait pas aux gens d'entrer dans ce lieu saint-là. Seul le souverain sacrificateur pouvait y entrer une fois par an avec le sang de l'agneau. Seul le souverain sacrificateur pouvait entrer là. Mais nous, en Jésus-Christ, le voile, c'est Jésus lui-même, c'est sa chair. Mais le voile a été déchiré, sa chair a été déchirée. Alors la porte est ouverte. On rentre par sa chair, par son sang. On rentre par la foi de ce qu'il a accompli à la croix. On entre dans ce lieu-là simplement parce qu'on croit. On croit en Jésus. Son sang est efficace. Sa chair brisée m'ouvre la porte du lieu très saint et j'entre dans ce lieu-là où les ailes du chérubin de gloire nous couvrent, là où il y a une source de vie, une source de justice, une source de bonté, la maison de Dieu, la maison même de Dieu, le lieu très saint. Il dit, nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous donc. Il y a un rôle. On a un rôle. Parce que même si l'entrée est ouverte, on a le devoir de s'approcher, d'entrer, puis de demeurer là. De se baigner dans la présence. Si on veut recevoir tous les bénéfices de cette maison, il faut s'approcher, puis il faut apprendre à demeurer dans la présence de l'Esprit. Parce que là est l'Esprit, là est la plénitude de l'Esprit, la gloire de l'Esprit est là. Puis on se baigne, c'est comme si on se baigne. Quand on entre dans la présence de Dieu, on commence par se baigner. On s'éclabousse un petit peu. Puis à un moment donné, ben c'est ça. À un moment donné, il y a de l'eau, à un moment donné, il y a du feu. Il y a tout ça dans la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu répand ses bontés sur nous autres. Mais je veux arrêter votre attention sur le voile aujourd'hui. Au verset 20, ça dit bien, la route nouvelle est vivante, donc c'est une route, c'est un chemin, qui est vivant. C'est pas une route morte. C'est pas une route qu'on pilote dessus, puis c'est nous autres juste qui marchent. C'est pas ça. Avez-vous déjà marché sur un tapis roulant? Sur une escalier roulante? Ben c'est ça. Il dit, une route nouvelle est vivante. C'est une route qui se déroule sous nos pas. C'est pas juste nous qui marchons, mais c'est le plan de Dieu qui s'accomplit quand on reste dans cette présence-là, dans la présence de Dieu. C'est le plan de Dieu qui se déroule sur nous parce que c'est une route vivante. C'est la puissance de Dieu à l'action. C'est le chérubin de gloire qui... Les chérubins de gloire, c'est une manifestation de la gloire de Dieu. Puis, ils ont des projets pour nous, ils ont des plans. Dieu, le Père, a un plan, un projet. Puis quand on est dans cette présence-là, ça permet au plan de Dieu de commencer à s'élaborer, à se dérouler sous nous. On a juste à y marcher. Parce que le tapis est roulant. C'est comme un escalier roulant quand tu montes dans un escalier roulant. Ben, ça marche tout seul. Tu as juste à être là. Mais il faut que tu sois là. Il faut que tu apprennes à demeurer dans cette présence-là, dans la présence du Saint-Esprit, de la gloire de Dieu, dans la présence au travers du sang de Jésus. Puis je vais arrêter sur ce voile-là, le voile qui a été déchiré, qui représente la chair de Jésus. Dans Exode, chapitre 26, les versets 31 à 33. Exode
le chapitre 26, verset 31 à 33. Exode 26, verset 31 à 33. Ça dit, tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Ok, le voile qui était là à l'entrée du Dieu très saint était fait en quatre matériaux. Remarquez, il y a quatre matériaux. Un voile bleu, de fil pourpre, de fil cramoisi et de fin lin retors. Le fin lin était blanc. Il sera artistement travaillé et l'on y représentera des chérubins. Parce que, quand tu entres dans cette présence-là, à travers du voile de Jésus, les chérubins de gloire sont là. La présence de Dieu est là. Il dit, tu le mettras, ce voile-là, sur quatre colonnes d'acacias, couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et se poseront sur quatre bases d'argent. C'est une image. Le voile, la chair de Jésus, a ouvert pour nous autres une entrée. Puis, ce que Jésus a accompli à la croix, ça revêt quatre aspects. Il y a quatre bases, quatre fondements d'argent. L'argent, c'est toujours l'image du rachat que Jésus a fait pour nous. Il y a quatre facettes au rachat que Dieu a fait pour nous, que Jésus a fait à la croix. Il y a quatre bases. Il y a quatre matériaux dans ce voile-là. Puis chacun de ces matériaux-là qu'il y avait dans le voile nous parle de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Comme j'ai cité le verset mercredi passé, dans 1 Corinthiens 1, verset 31, ça dit « Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption. » Tu as les quatre aspects du voile, tu as les quatre bases, les quatre fondements de la grâce de Dieu, les quatre facette de l'œuvre accomplie à la croix. Parce que l'œuvre que Jésus a faite à la croix, il y a quatre facettes majeures. C'est très important de comprendre ces quatre facettes-là pour entrer dans ce que Jésus a accompli pour nous. Puis pour l'expérimenter, pour le vivre. On va prendre chacune de ces facettes-là, une à la fois. Parce que c'est quand tu t'arrêtes à ça, ça peut peut-être sembler compliqué au début, mais c'est tellement grand, c'est tellement riche, il y a tellement de richesse là-dedans que tu peux juste méditer là-dessus, puis ton cœur est rempli, c'est rempli de la grâce de Dieu, parce que là, à la croix, il y a une grâce extraordinaire qui s'est manifestée pour nous autres. C'est ça. Le premier ingrédient de ce voile-là, c'était le fin lin retors. Le fin lin. Le fin lin. Lin, du lin. Le lin, c'était une sorte de plante duquel on tirait un tissu qu'on appelle le lin. Le lin, c'est très, très doux. Là. C'est très. Je ne sais pas si on a satiné. C'est comme un peu les parapluies, les affaires qu'on agite, là, les drapeaux. C'est fait avec du lin. C'est un matériau très, très doux. Très pur. Puis, c'était ça. Le premier matériau, c'était du fin lin. Ce fin lin-là venait d'une plante, du lin. Et cette plante-là, il faut qu'elle mûrisse. Une fois qu'elle mûre, on la broie, on la défait. Puis à l'intérieur, il y a du, comme de la soie, c'est du lin. Puis avec ce lin-là, on fait le lin, tous les matériaux qu'on fait. Mais ça, c'était une image de Jésus, parce que le voile, c'est Jésus. Donc, le fin lin, c'était la première image de Jésus, parce qu'il y a quatre facettes. Le lin, ça parle que Jésus, le Fils de Dieu, est devenu comme nous, une plante, une simple plante, une herbe. Il a pris racine sur terre, il est devenu un simple homme, il s'est fait homme. Mais plus que ça, que Jésus est devenu chair et s'est fait homme, Parce que c'est ça que ça représentait, le lin, ça veut dire, il est devenu, il s'est planté ici bas, il est devenu parmi nous, il a vécu parmi nous, mais c'était pur et blanc. Jésus est le seul homme qui n'a pas péché, qui était pur, sans tache, blanc, comme le lin. Ça prenait, pour expier nos péchés, ça prenait quelqu'un de pur et de blanc, comme Jésus. Ce Jésus était sans tache, sans péché. Puis c'était ça, c'était le fin lin qui nous couvre de sa justice. Parce qu'en mourant sur la croix, Jésus était juste. Mais ça dit que lui, qui était sans péché, est devenu péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Le fin lin qui représente la justice que Jésus avait, il a pris nos péchés sur lui pour que nous donner sa justice. Ce fin lin-là, il nous le donne parce qu'il a pris notre péché à la place. Il a comme pris notre nature de péché, parce que nous autres, on était comme du lin sale. On n'était plus du blanc, on était du lin sale. Mais il a pris cette nature de péché-là, il a fait un échange. Il dit, moi je vais prendre, sur la croix, je vais prendre ta nature de péché, sale, puis je vais te donner la mienne. Mm-hmm. Puis on voit ça dans 2 Corinthiens 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, donc le fin lin que je parle, Jésus, il a fait devenir péché pour nous. Donc Jésus a pris la nature de péché sur lui à la croix. Il n'y avait pas de péché lui. Mais il a porté cette nature de péché afin que nous devenions en lui. C'est-à-dire que quand on va en lui, dans ce lieu très saint, qu'on passe au travers du voile, on devient en lui justice de Dieu. La justice de Dieu nous recouvre. On reçoit une nouvelle nature. Parce que quand on parle de la justice de Dieu, notre nature n'était pas juste. Notre nature est péché. Ça, c'était notre nature à nous. Mais la nature de Jésus, elle, était justice. Il n'y avait pas de péché. Ça veut dire qu'il y a un échange. Jésus a pris notre nature qui était péché, puis nous a donné la sienne qui était justice. C'est un échange de nature. Il a pris le péché à la racine. En faisant ça, c'était la racine même du péché. Parce que s'il aurait juste pardonné le péché, ou juste oublié pour un temps le péché aurait resté dans notre cœur. Mais il fallait que le péché soit extirpé de notre cœur. Il fallait que la nature du péché, ce qui nous avait contaminé en dedans, parce que c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Donc le péché était dans le cœur, il était attaché à notre cœur, puis on ne pouvait pas s'en défaire. Il fallait que ce qui était dans le cœur soit extirpé de nous.
Enlevé.
C'est ça que Jésus a fait. Quand ça dit que Jésus est devenu péché pour que nous devenions en lui justice, c'est qu'il a pris cette nature de péché qui était dans le cœur, puis l'a enlevé, puis il nous a donné un nouveau cœur. Une nouvelle nature. Puis on le voit. Verset 17 du même chapitre, 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Une nouvelle création. Il n'a pas amélioré quelque chose, là. Il n'a pas pris la nature de péché, puis là, la nature, puis il a essayé de l'améliorer. Non, non. Elle n'était pas améliorable. Il n'y avait pas moyen, elle était faillite. Il n'y avait pas moyen de s'en sortir avec cette nature de péché-là. Ça fait qu'il a fait, il l'a enlevé, puis il a mis une nouvelle créature, une nouvelle justice, une nouvelle nature dans notre cœur. Il nous a donné un nouveau cœur. On est né de nouveau. Une nouvelle naissance. Il y a quelque chose qui n'était pas, qui est devenu. Puis il y a quelque chose qui était et qui est mort. Parce que notre nature de péché est morte avec Jésus à la croix. Parce que pour avoir une nouvelle, un nouveau enfant, il faut que ce qui était avant, le bébé qui était dans le ventre, il ne faut plus qu'il soit là, il faut qu'il soit sorti. Donc, pour naître à quelque chose de nouveau, il faut mourir premièrement à ce qui est ancien. Donc, il faut mourir à la nature de péché. Ça, c'est ce que Jésus a accompli à la croix. Puis quand on entre dans ce lieu-là, on vient au bénéfice de cet aspect extraordinaire de l'œuvre de Jésus, qui est la justice de Dieu. On reçoit une nouvelle nature, une nouvelle création. Il dit, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est la justice de Dieu. C'est le premier fondement de la grâce de Dieu. C'est le premier fondement de l'œuvre que Jésus a accompli à la croix. Puis c'est tellement important de bien saisir ça, de laisser l'Esprit de Dieu nous révéler cet aspect-là. Parce que si on ne saisit pas cet aspect-là, on reste comme des enfants ballottés, flottants, parce qu'on ne sait pas notre héritage. On pense qu'on est encore poigné avec le péché, que cette nature de péché est encore en nous. Si on combat contre le péché, c'est pas vrai. Cette nature de péché-là a été enlevée à la croix de Golgotha. On n'a pas à combattre contre ce qui est déjà enlevé à la croix. On a cependant à demeurer dans la présence, dans ce sanctuaire, dans cette présence-là du Saint-Esprit, où toute l'œuvre de Jésus-Christ à la croix nous est transmise, nous est communiquée, nous est donnée. Parce que c'est un cadeau, c'est une grâce, c'est gratuit. Tu n'as rien à faire pour, tu as juste à croire en l'œuvre de Jésus-Christ. C'est gratuit. C'est ça la justice de Dieu. C'est entièrement gratuit. Tu la reçois par la foi. Tu ne peux pas l'acquérir, tu ne peux pas. Tu peux essayer de t'améliorer, tu ne peux pas. Mais c'est en Jésus, c'est tout ça. C'est lui, c'est le Saint-Là qui a été donné pour notre rachat, puis qui nous donne sa justice. Colossiens 2, verset 11. J'aime bien relire ce verset-là, puis le relire encore, parce que Colossiens 2, 11, ça parle de cette œuvre de justice. Ça parle de Christ, notre justice. Ça parle de la circoncision du cœur. La justice que Christ met dans notre cœur. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, donc l'œuvre de Dieu. Une œuvre céleste, une nouvelle création qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Le corps de la chair, c'est le pouvoir du péché dans notre vie. C'est la nature de péché qu'il y avait dans notre vie. Parce que le corps de la chair, c'est ce qui nous pousse à pécher, mais le corps, ça veut dire, c'est ce qui donnait force, énergie à cette chair-là. C'est la nature de péché. On a été dépouillé à la croix de Golgotha. Cette nature de péché-là, on a été circoncis. On a reçu une nouvelle nature, une nouvelle vie. On a reçu un nouvel esprit. Puis c'est ça qu'on parle de la justice de Dieu. C'est vraiment comme un nouvel esprit qui est mis dans notre cœur. Un nouveau souffle, mais qui n'est plus corrompu. Ce souffle-là n'est plus corrompu par le péché. Il est animé du souffle même de Dieu. Il est animé du souffle même de Jésus. Comme j'ai dit la semaine passée, la plus belle image qu'on a, c'est quand Adam a été mis dans le sommeil, a été placé dans le sommeil, puis qu'une côte a été retirée de lui pour former la femme. C'est la plus belle image qu'on a de ce que Dieu a fait au travers de Jésus pour nous autres. On était perdus, on existait. Le péché nous avait complètement souillés, éloignés de Dieu. Puis là, Dieu fait renaître de la côte même de Jésus. À cause de la mort de Jésus, il sort de nous une côte qui est exactement de la même nature que Jésus. La nature qu'on reçoit, c'est sa nature à lui, c'est sa nature de justice. Et cette nature de justice-là nous donne la force de vivre dans la justice, parce que c'est une nature de justice. C'est un souffle de justice qui est plus attiré par le péché, qui est attiré par la justice de Dieu. Puis c'est ça que le Saint-Esprit vient, puis lui, il va, comme le chérubin qui couvrait avec ses ailes, qui couvrait le propitiatoire, le Saint-Esprit va venir, puis il va nous couvrir. Il va enfanter Christ en nous. Il va faire que le petit, parce qu'on est comme un bébé, quand on vient à Jésus, on est comme un bébé. Même si on est pur, si on reçoit sa justice, on est comme un bébé. Notre esprit là, est tout petit. Puis là, il a besoin de grandir. Mais c'est le Saint-Esprit qui vient nous couver comme une mère, puis il nous fait grandir à l'image de Jésus, à la ressemblance de Jésus. Il vient, puis là, ce nouvel esprit-là qui est né a besoin d'être dirigé, a besoin d'être encouragé, a besoin d'être nourri, parce que c'est comme un bébé, puis là, il faut qu'il grandisse. Mais pour que le bébé grandisse, il faut que tu le nourrisses, il faut que tu me donnes du lait, il faut que tu me donnes de quoi manger, de quoi boire, il faut que tu veilles sur lui. Mais celui qui veille sur nous, c'est le Saint-Esprit, qui nous couvre de ses ailes. C'est pour ça que ce premier aspect-là de la justice de Dieu, c'est si important de comprendre qu'est-ce que Jésus a accompli pour nous. C'est bien plus que le pardon. C'est mille fois plus que le pardon. Amen. Ça, c'est le premier aspect. C'est le fin, là. C'est la justice de Dieu que Dieu vient mettre sur nous autres. Le deuxième aspect, dans le voile, c'est le cramoisi, la couleur cramoisi, qui est la même couleur que écarlate. Ça, c'était un rouge foncé qui était comme le rouge sang, une forme de rouge sang. Et cette couleur-là, qui était là dans le voile, qui formait une des quatre tissus du voile, ça nous parle, parce que l'écarlate, le cramoisi, provenait d'un petit verre qu'on écrasait. Pour avoir la couleur de cramoisi, il fallait écraser des milliers de petits verres, parce que ça provient d'un verre, un verre de terre, un verre qui se promène à terre, tu sais. La couleur de cramoisi venait de l'eau, d'un verre. C'est qu'il fallait écraser des milliers de verres pour avoir le rouge écarlate, le cramoisi. Et plus que ça, quand la maman vert écarlate, la maman voulait avoir des petits, elle se fixait à un bois, à un arbre, un bois. Puis là, elle meurt là, après le bois, pour avoir ses petits. Ses petits vivent de la mère morte. Ils vivent au sein même de la mère qui est morte. La mère morte, sa mère, la mère meurt, la mère vert, la mère vert meurt, puis les bébés grandissent grâce à la mort de leur mère.
C'est une sorte de vert.
Un vert de terre.
C'est dans cet endroit. Puis ça s'appelle le coccus ilicis. Cette sorte de vert-là, quand elle décide d'avoir ce bébé, elle s'en va après un arbre, puis elle se fixe après. Mais elle se fixe tellement pris après qu'elle n'est plus capable de se défaire de l'arbre. Elle devient un avec l'arbre. Puis là, elle meurt. Mais ses bébés sont en dedans d'elle. Puis là, tout son corps devient comme un rouge écarlate. Il devient tout rouge. Puis ils sont couverts, les bébés, à l'intérieur d'eux. Puis là, quand c'est le temps, bien, ils sortent. C'est comme une image que nous, si on veut vraiment naître, il faut mourir en Christ. Sous son sacrifice, son sang, comme la maman vert, le coccus ilicis, il vient tout rouge. Jésus a donné sa vie, son sacrifice. Nous, on est à l'intérieur de sa mort, puis dans sa mort, on va avoir la vie pour naître. Fait que c'est l'image qu'il y avait là-dedans.
Ça veut dire que...
Sans mort
de
Jésus,
rien
fait.
C'est ça.
Ça veut dire qu'on vit grâce à la mort de Jésus, qu'on vit dans cette mort. Ça veut dire que quand on passe au travers du voile, c'est vraiment dans sa mort. On reste comme couvert par lui. On est dans sa mort. On est sous son sang. Puis on vit grâce à sa mort. Puis c'est ça. C'est une image que ce verre-là nous procurait, c'est ça, la vie. Hein, c'est comme un... sans cette mort-là, on ne peut pas vivre. C'est que c'est comme si... c'est une image, parce que c'est Jésus est devenu notre sacrifice. Jésus était ce verre-là qui s'est sacrifié.
Pour qu'on vive.
Pour qu'on vive. C'est que c'est le deuxième aspect de Jésus, parce que tantôt on a parlé du Saint-Lin qui est Jésus, fils de l'homme, qui s'est fait homme, mais là c'est plus, c'est Jésus qui se fait sacrifice, qui se fait sacrificateur aussi. Parce que c'est l'image aussi que Jésus paraît comme souverain sacrificateur. Celui qui devait offrir le sacrifice, puis il était lui-même le sacrifice en plus. Fait qu'on a la deuxième aspect de Jésus qui s'offre en sacrifice. Mais un sacrifice, c'était pour payer le coût des conséquences de notre péché. Parce que le sacrifice était offert parce qu'on avait péché, mais là, c'est comme si ça donnait une couverture, ça donnait un rachat, ça permettait de payer la peine de notre péché. Parce qu'il faut bien faire la différence. Tantôt, j'ai parlé, quand on dit la justice de Dieu, c'est la racine du péché. Jésus a enlevé la racine de notre péché. OK? Et c'est comme l'image un alcoolique qui arrête de boire. Ben là, il est guéri de son alcoolisme. Mais c'est déjà grand. Mais ça, c'est la justice. On veut dire, il enlève le mal, il enlève le péché de nous. Mais si on prend l'exemple de cet alcoolique-là, peut-être que maintenant, il est guéri. Mais peut-être qu'avant d'être guéri, il a conduit un auto en état d'ébriété, qui était ivre. Puis peut-être qu'il a tué quelqu'un en conduisant un auto. Puis parce qu'il a conduit un auto en état d'ébriété, ben là, il est obligé d'être jugé, puis il reçoit une peine de prison, peut-être 5 ans de prison. Là, il est obligé de faire sa peine de prison parce que, même s'il est guéri aujourd'hui de son alcoolisme, avant d'être guéri, il avait péché. Donc, ça a eu des conséquences, il y a eu des suites à son péché. Mm-hmm. Puis c'est ça, ces conséquences à son péché, il est obligé de payer, il y a une peine, on dit ça, purger, une peine de prison. Ouais. Fait que ça, c'est la deuxième œuvre que Jésus a fait. Parce qu'il n'a pas seulement enlevé la racine du péché. Il n'a pas seulement pris le péché puis nous a guéri du péché. Mais il a pris les conséquences. C'est-à-dire la peine de 5 ans de prison, il l'a subi à notre place. Il a subi la peine, la conséquence. Tout le châtiment qui devait venir sur nous, la condamnation, il l'a subi. C'est ça qu'on parle du sacrifice, du sacrificateur. C'est plus que simplement la justice. La justice, c'est une chose, c'est enlever le changement de nature. Mais là, on parle que Jésus a été même jusqu'à payer notre peine, les conséquences de notre péché. Il aurait pu juste changer de nature, puis sans payer notre peine. Tu sais, comme le prisonnier que OK, tu dis, là, t'es guéri maintenant. Mais là, tu continues à faire ta peine. Tu vas faire ta peine. Mais Jésus a fait plus que ça. En plus de nous guérir, il dit, tu n'auras même pas de peine à purger. Les 5 ans de prison que tu devais purger à cause de ton péché, je les ai purgés, moi.
Vous êtes libre.
On est libre. On n'est pas rien que changé de nature, mais là, dans cette deuxième œuvre-là, c'est comme on change d'identité. On n'est plus prisonnier de notre péché. Parce que là, c'est comme si...
De ce qu'on était.
Il aurait fallu subir les conséquences de notre péché, parce que là, il y a eu des conséquences de notre péché. Il aurait fallu les subir. Mais Jésus dit non. Il dit, moi, j'ai subi les conséquences de votre péché. Il prend la peine sur lui. Ça, c'est la sanctification. C'est, on change d'identité. De prisonnier, on devient prisonnier de Jésus. De serviteur du péché, du diable qu'on était, on devient serviteur de Dieu. On change de... À cause de son sacrifice, on change d'identité. On a une nouvelle... On n'est plus sous la peine de notre péché. On n'est plus obligé de subir les conséquences de notre péché. Puis toute la malédiction. Parce que la malédiction était là à cause de notre péché. C'était les conséquences de notre péché. Mais là, ça dit que Jésus est devenu malédiction afin que nous soyons en lui bénédiction. Fait qu'il a pris toute la malédiction, toutes les conséquences, toute la peine qu'on avait purgée, il l'a pris sur lui à notre place. On voit ça dans la parole en Ésaïe 53, versets 4 et 5. Ésaïe 53, versets 4 et 5, ça dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. » Punition, la peine frappée de Dieu, humiliée, la peine qu'on devait subir. Mais il était blessé pour nos iniquités, brisé pour nos péché. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est-à-dire que toute la malédiction, les conséquences affreuses de notre péché, Jésus les a portées sur lui afin que nous n'ayons plus à subir la malédiction, afin que nous n'ayons plus à subir les conséquences, mais qu'on puisse vivre avec les conséquences de sa justice à lui. Comme si on n'avait jamais péché. C'est ça. C'est comme si on n'avait jamais péché. En plus d'enlever, de nous guérir du péché, il enlève toutes les conséquences. C'est comme si on n'avait jamais péché. C'est grand ce que Dieu a fait. Ce que Jésus a fait à la croix. Psaume 32. Psaume 32, le verset 5. Je dis, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Ça dit bien la peine, c'est-à-dire toute la conséquence, tout le tort dû à mon péché. Dans la version Chouraki, ça dit, toi, tu as porté le tort de ma faute. La conséquence de ma faute. Parce que ça dit bien, au verset 6, qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. La malédiction était comparée à de grandes eaux, les grandes eaux de la malédiction. Là, il dit que Dieu a effacé la peine de son péché, les grandes eaux de la malédiction les a enlevées. Il a mis la bénédiction à la place. Que ça dit qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Le diable ne peut pas nous reprocher un péché qu'on a fait avant. Parce que Jésus a subi. Il a subi notre malédiction. Il a subi la peine de notre péché. C'est qu'il n'y a plus aucune raison d'accusation, de condamnation pour le diable. Il ne peut plus. Parce que là, on est des serviteurs de Jésus. On n'est plus des serviteurs du diable. On n'a plus rien à faire avec lui. On est complètement libérés. On est des serviteurs de Jésus. Ça, c'est si grand, c'est si merveilleux que tu t'arrêtes à ça. Puis il y a Galates 3, verset 13 à 14. Galates 3, verset 13 à 14, qui dit bien. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, est devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Tantôt, Paul disait, il est devenu péché pour nous. Ça, c'était une chose, c'était la justice. Mais là, il devient malédiction pour nous. C'est une deuxième chose. C'est différent de la première. Il devient malédiction pour nous. Donc, c'est là qu'on dit qu'il devient notre sanctification. Sanctifier, ça veut dire mis à part. Ça veut dire tu appartiens plus au diable. Il n'y a plus rien de toi qui appartient au diable. Tu appartiens à quelqu'un d'autre maintenant. Tu appartiens à Jésus. Sanctifier, c'est ça que ça veut dire. Le mot sanctifier veut dire mis à part. Une part autre, une appartenance autre. Tu appartiens tout entier à Jésus. Puis ton passé n'existe plus. C'est extraordinaire. Ton passé n'existe plus. Quand tu viens à Jésus, ton passé est effacé. Peu importe les péchés que tu as commis avant, c'est effacé. Tu n'as pas besoin d'avoir une séance de guérison de tes souvenirs du passé. Tu viens à Jésus. Puis, c'est pardonné, c'est effacé. Il n'y a plus le droit de t'accuser, il n'y a plus le droit de te condamner. Aujourd'hui, dans l'Église, on fait des séances. Il y a beaucoup de chrétiens qui font des séances de counseling, de guérison des souvenirs du passé. On a vu ça beaucoup, nous autres, dans les églises. Bon. Puis, c'est parce que les gens ne connaissent pas la croix. Ils ne connaissent pas la valeur de la croix. Qu'est-ce que Jésus a accompli à la croix? Il a effacé le péché. Il a effacé le passé aussi. Les choses anciennes sont passées. Il a effacé ça, c'est fini.
Il a brisé aussi les choses par rapport à nos ancêtres.
La malédiction.
Les malédictions de nos ancêtres.
Ancestrales.
C'est coupé avec nous. C'est fini.
On n'a pas besoin d'avoir ça.
On a essayé de régler ça, là. C'est fini.
On n'a plus à avoir... Ah non, c'est ça, c'est fini. On est libéré, on reçoit... C'est une bénédiction. En Jésus, c'est une bénédiction. Donc là, on touche à la deuxième œuvre. Christ devenu notre justice. Puis là, maintenant, c'est Christ devenu notre sanctification. Jésus nous met à part. On y appartient tout entier. Puis quand on demeure sur cette croix-là, bien c'est ça. On se rend compte que on appartient à Dieu. On ne s'appartient plus. Ce n'est plus moi qui vis. Il y a quelque chose qui reflète aussi, c'est oui, on appartient à Dieu, mais en même temps, j'ai plus ma nature, puis je ne m'appartiens plus. J'ai plus le droit non plus de faire ce que je veux, parce que c'est comme quand tu comprends ça, cette œuvre à la croix, ben, plus que tu saisis cette grâce-là, plus que tu comprends que c'est tellement grand que j'ai plus le droit de m'appartenir à moi-même pour que j'appartienne à Dieu, parce que c'est tellement grand ce qu'il a fait que j'ai pas le droit. 2 Corinthiens 5, verset 14 à 15. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Mais quand est-ce qu'on suit Jésus jusqu'à la croix et a porté notre croix? Ça dit... Au verset 14, l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ, quand on saisit l'ampleur de cet amour à la croix, ça nous pousse dans les bras du Seigneur. Son amour nous communique une ferveur, un zèle pour lui, parce que c'est son amour. Quand on comprend l'ampleur de cet amour-là, on n'a plus aucune raison de vivre pour nous-mêmes. Ça a resté en lui. À se réfugier en lui, parce que lui, il a tout pourvu. Il a pourvu cette justice-là, cette nature de péché-là est enlevée, puis te donne la nature de justice. C'est ce qu'il a accompli à la croix. puis j'expliquais comment que c'est tellement grand. Là, c'est juste un aspect. C'est le fin, c'est la justice. J'expliquais le deuxième aspect qui est le pourpre écarlate, la couleur écarlate, cramoisie, qui est le deuxième aspect du voile, là, qui était rougeant, un rouge très foncé, très vif. Puis ça nous parlait comment que ce rouge-là, c'était. Parce que pour avoir ce rouge-là, une sorte de verre, un petit verre de terre, puis avec une entité lumineuse pour avoir cette couleur rouge. Ça nous parle comment que ce rouge-là, c'est Jésus, sacrifice, sacrificateur. Parce que Jésus était fils de l'homme, mais Jésus était aussi sacrificateur. Ça nous parle de ce deuxième aspect que Jésus, il est mort à notre place pour nous donner la vie. Je parlais comment que le premier aspect, c'est comme s'il y a eu un changement de nature. Il enlève la nature de péché, il nous donne sa nature à lui. Mais le deuxième aspect, c'est ça va beaucoup plus loin. C'est, il fait plus que prendre simplement la nature. Dans cette nature de péché-là, on avait eu des conséquences. Il y a eu des conséquences à notre péché. On a eu des. C'est comme si ça a engendré le salaire du péché, c'est la mort. Ça a engendré la malédiction. Parce que la malédiction était due à cause du péché. Ça a engendré une série de malédictions, de condamnations qui étaient sur nous. Mais Jésus, à la croix, en plus d'enlever, de nous guérir de ce péché-là, il a porté sur lui les conséquences, le prix, la peine de notre péché. Il a porté sur lui toute la malédiction de notre péché. Ça veut dire, c'est pour ça que ça dit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que Jésus n'a pas seulement pris notre péché, mais il a enlevé la. Il a subi lui-même la peine. Hein, quand on dit que quelqu'un, à cause qu'il a fait un meurtre, il a une peine de 5 ans de prison, ben c'est ça. C'est, la peine, c'est le châtiment qui était dû à notre péché. Puis Jésus a porté ça aussi à la croix. C'est pour ça que le diable ne peut plus venir attaquer et dire, regarde ce que tu as fait avant, là, quand tu ne connais pas le Seigneur. Il ne peut plus attaquer ça parce que pour Dieu, ça n'existe plus. Le péché a été enlevé, la nature a été enlevée, mais Jésus a subi aussi toutes les conséquences de notre péché, la malédiction. Puis à cause de lui, on est béni. Il y a une source de bénédiction qui est ouverte. C'est la bénédiction. Parce que notre seul, nous sommes guéris parce que la maladie, c'est une conséquence du péché. La maladie, c'est une malédiction. Dieu a dit, si vous obéissez à toute la loi, je suis l'Éternel qui vous guérit, aucune de ces maladies ne va vous frapper. Donc, l'obéissance à la loi emmenait la guérison. Il n'y avait pas de maladie, supposément. Mais la maladie était due, mais si vous désobéissez à la loi, voilà toutes les maladies qui vont vous frapper. Donc là, c'était comme une conséquence de la désobéissance, du péché. Mais Jésus, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'en Jésus, il prend sur lui la malédiction. Il a été, ça dit que par ses meurtrissures, ça veut dire que son corps a été meurtri, brisé, ça amène la guérison de notre corps aussi. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. La malédiction est prise sur Jésus, puis nous autres, on hérite la bénédiction. On hérite une conséquence contraire à notre péché. On hérite la conséquence de la justice de Jésus, on l'hérite, nous. C'est pour ça qu'on. C'est important d'avoir une révélation. Ça, c'est juste les deux premiers aspects-là. C'est tellement important d'avoir une révélation de cette œuvre de tout accompli à la croix, de cette œuvre que Jésus a fait où tout est accompli. C'est ça qu'on explique. Nous, ça fait 3 ans et demi qu'on baigne dans cette révélation-là. Ça fait 30 ans que je connais le Seigneur. Mais ça fait juste 3 ans et demi que Dieu nous a ramené à l'essentiel, la croix de Jésus. Tout est accompli là. C'est parce que c'est comme si les églises, beaucoup d'églises, ils s'éloignent de la croix. Puis ils font des thérapies pour essayer de guérir les souvenirs, toutes sortes de thérapies. Mais la croix suffit. Jésus a suffi. Son œuvre à la croix suffit. Il suffit d'avoir de demeurer là et de recevoir la révélation de ce qui était accompli.
Les gens ne reçoivent pas les bénéfices de la croix, probablement parce qu'ils ne sont pas centrés sur la croix. Ou soit qu'ils ne connaissent pas les bénéfices de l'œuvre de Jésus à la croix. L'autre chose, c'est que ils mettent des priorités autre chose que la croix. Là. C'est plus la croix, là. C'est plus son œuvre. C'est ce qu'eux peuvent faire pour aider Dieu, d'une certaine façon. Ou des, comme l'abbé parle, des faux docteurs qui enseignent des choses qui sont pernicieuses, qui sont secondaires, ou qui sont dérivées, puis qui ne sont plus selon la sainte doctrine. La sainte doctrine, dans le temps des apôtres, ce n'était que l'œuvre de Christ. Il n'y avait rien d'autre. Rien d'autre. Puis l'apôtre Paul va même jusqu'à dire, il y a du malheur à ceux qui prêchent un autre évangile. C'est, ça a toujours été le plan de l'ennemi, c'est qu'il ne voulait pas que ce soit que les gens voient ce qu'il y avait vraiment. C'est pas juste Jésus qui est mort sur la croix, c'est de là sort toute notre bénédiction, de là sort toute notre richesse et notre justice. Il n'y a plus de cycle de malheur, il n'y a plus de cycle de maladie, il n'y a plus de cycle de vanité non plus. Il n'y a plus de conséquences passées, présentes et à venir. C'est fini, il n'y a plus rien. Il n'y a rien, il n'y a personne qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Le voile a été brisé, la séparation entre Dieu et nous a été enlevée. Donc là, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de le recevoir.
C'est de ne rien.
Mais là, le problème de plusieurs, moi je crois que c'est pourquoi qu'on invente toutes sortes de programmes, toutes sortes de systèmes que l'homme fait présentement, surtout même les chrétiens, c'est qu'on ne croit pas. Quand on ne croit pas, on fait de l'homme. On crée des programmes, on crée des systèmes. Mais quand on croit, exactement ce que Jésus a fait, la vérité nous affranchit.
Mmh.
On est libre.
Mmh. Amen.